Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, la réflexion porte sur dépasser nos résistances au changement. Alors évidemment, c'est un thème qui est abordé dans bien des domaines. C'est abordé de façon pragmatique parfois. Parfois, c'est basé sur une réflexion de fond. Et la réflexion qui va vous être proposée ce soir est une réflexion, une démarche un peu singulière. Parce que cette démarche, elle est évidemment basée sur l'enseignement du Bouddha. Donc c'est une approche singulière qui risque éventuellement de vous étonner, peut-être de vous dérouter, peut-être au contraire de venir nourrir votre réflexion, quelle que soit votre démarche intellectuelle ou spirituelle. Mais il y a là une entrée qui est particulière. En ce sens que l'enseignement du Bouddha n'a pas pour objet de répondre à une problématique spécifique dans un cadre particulier. L'enseignement du Bouddha nous donne des enseignements, une approche de fond, un regard plus vaste, je vais dire, sur nos fonctionnements qui nous amène à résister au changement. Donc l'approche est un peu différente, sachez-le. Je vais bien sûr laisser pas mal d'espace pour les questions, parce que c'est important de répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à faire part de ce que vous avez rencontré dans cette approche. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes dans un monde, mais nous les humains sommes dans un monde qui est en perpétuel changement. C'est pas nouveau, hein, ça a toujours été. Mais c'est vrai qu'actuellement, tout semble s'accélérer, tout semble bouger dans tous les sens et dans tous les domaines, et c'est parfois assez déstabilisant. Et notre façon de réagir à ce bouleversement, à ces changements, peuvent nous amener à entamer une forme de résistance, certes un peu stérile, si on y regarde à plus long terme, mais indispensable pour que l'esprit puisse prendre le temps de s'habituer à comment répondre à cette situation. C'est-à-dire qu'un changement, bien sûr, est une question, génère des questions importantes et surtout remet en cause pas mal de domaines de notre vie. Donc on va explorer un petit peu tout ça. Bon, déjà, on pourrait dire que dans le monde du travail, les choses ont beaucoup, beaucoup bougé. Les technologies se sont développées. Les modes de transmission, de communication ont énormément changé, ce qui a amené de fait, sans parler bien sûr de la robotisation dans pas mal de domaines, ce qui a amené de fait un questionnement sur quelle est la place réelle de l'homme au travail aujourd'hui. Dans bien des domaines, la question se pose. Et aussi, comment l'homme doit s'adapter à ces différentes modifications et développements. Maintenant, il y a aussi un autre domaine où les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Ce sont les repères familiaux. Il y a quelques années de ça, la famille était un repère à peu près stable. Vous voyez ? Aujourd'hui, tous les repères ont changé avec le divorce et monnaie courante, alors qu'il y a de ça 40-50 ans, c'était plus rare. Plus marginal, on va dire. Aujourd'hui, le divorce est complètement banalisé. Les familles recomposées posent d'autres questions et amènent aussi pas mal de bouleversements. Mais aussi, aujourd'hui, il est tout à fait commun de rencontrer des parents isolés. Donc ça, tous ces repères-là ont aussi été changés. Un autre domaine où les repères ont bougé, c'est le rapport à la vieillesse et à la mort. Ces dernières décennies, parler de la vieillesse, parler de la mort, parler de la maladie, est quand même devenu plus ou moins un sujet tabou, une source d'inquiétude assez importante. Une source d'inquiétude par rapport à notre propre vieillissement, mais aussi comment accompagner nos parents âgés, voire très âgés, et qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place pour accompagner les personnes en très grand âge. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, la durée de vie ayant augmenté, il y a de plus en plus de personnes âgées. Et alors, évidemment, on pourrait réfléchir à comment développer des structures adaptées, mais ça n'est pas le propos de ce soir. On ne va pas réfléchir à comment faire bouger les structures, comment modifier les méthodes de travail, comment revoir nos repères familiaux. Ce n'est pas du tout le projet. Là, l'idée, c'est plus de pointer ce qui, dans notre vie aujourd'hui, génère de l'inquiétude par rapport à tous ces changements multiples. Et donc, quand il y a inquiétude, il y a plutôt tendance à résister plutôt que de surfer sur la vague. Donc, notre difficulté, je pense, notre difficulté, c'est que quand un problème nous embarrasse, quand quelque chose nous inquiète, on a plutôt tendance à détourner le regard que de plutôt se centrer sur que se passe-t-il réellement ? Quels sont les enjeux actuels pour moi et pour l'humanité, par exemple. On a plutôt tendance à détourner un petit peu le regard et à se dire, bon, ça va aller, hein, on va essayer de surfer avec ça. Donc là, je vais vous proposer une lecture de notre fonctionnement humain, bien sûr, basée sur l'approche bouddhiste, hein, bien évidemment. Et cette lecture va nous servir de base pour réfléchir à comment apprivoiser le changement de façon plus fertile. Donc, ce détour par le fonctionnement est vraiment un élément qui peut, et je le redis, hein, qui peut déstabiliser, mais qui est important d'entendre. L'invitation, bien sûr, sur base de ce que vous allez entendre, si vous êtes intéressé, c'est d'y réfléchir. Sinon, laissez tomber, c'est pas grave. Donc, comment nous fonctionnons ? En fait, je me place au centre de mon monde, que je prends pour le monde. J'ai toujours il y a moi et il y a les autres. Il y a moi et il y a l'environnement. Mais il y a moi au centre de tout ça. Et là, le problème, c'est que si on y réfléchit un petit peu, on est tout à fait d'accord. Je n'ai accès qu'à ma réalité. Je n'ai accès qu'à mes représentations de ce qui se passe. Mais je prends ça pour la réalité. C'est ça le problème. C'est que quand j'y réfléchis, je sais bien que c'est ma version du monde. Mais n'empêche que quand je suis en situation, c'est la réalité du monde. Donc, et ça va générer, bien évidemment, pas mal de troubles et de confusion, parce que, aussi bien dans la rencontre avec l'autre, qui lui-même a sa propre version, des éléments vont être vus et vécus différemment, qui vont générer, bien évidemment, des complications relationnelles. Et puis, sur base de ce monde qui est le mien, de ma représentation du monde, il y a bien évidemment ce que j'aime. Alors j'aime, j'apprécie, je préfère, je désire tel et tel lien, entretenir un certain type de relation. J'aime m'entourer de ce qui me convient, de ce qui me rassure. J'aime que les circonstances dans mon environnement se passent comme je le souhaite. C'est bien évidemment la base de notre difficulté à accepter le changement, parce qu'on aime bien que ça existe et que ça reste comme j'aime, ou que ça change comme j'aime, comme j'ai envie. Et puis, il y a bien évidemment tout ce que j'aime pas. Je n'aime pas que les choses changent en dehors de ma volonté. Je n'aime pas être en insécurité. Je n'aime pas être séparée de ce que j'aime. Et là, bien évidemment, c'est là sur cette base-là que se fixent nos résistances. Et puis, bien sûr, il y a tout ce que je ne vois pas, tout ce que je ne considère pas, tout ce qui m'indiffère ou même qui ne m'interpelle pas du tout. Vous savez, comme quand on regarde un paysage, par exemple, il y a des choses qu'on remarque et puis il y a des choses qu'on n'a pas du tout remarquées et qui sont pourtant visibles ou audibles, vous voyez ? Et c'est notre fonctionnement. Autrement dit, notre fonctionnement est basé sur « j'aime » et là, il y a tout un processus d'appropriation. « Je n'aime pas » et là, il y a tout un processus de rejet. Et « je ne vois pas » et là, il y a tout un processus, on pourrait dire, d'ignorance, d'indifférence, de non-vue, etc., qui va avoir une influence, bien évidemment, dans les situations que je rencontre. Parce que comme je perçois qu'une partie des éléments, bien évidemment, je ne vais pas prendre en compte ce que je ne perçois pas. Mais on y reviendra. On pourrait dire, pour faire très synthétique, vous pensez bien qu'il y a d'immenses enseignements, une somme incroyable d'enseignements sur le fonctionnement, et moi je vais vous dire ça en trois phrases. Vous voyez, c'est un peu frustrant, mais c'est juste pour donner un éclairage qui peut servir de base à la réflexion. Donc pour faire très très synthétique, je me vis comme une personne, comme une entité. Je me vis comme autonome. Et je me vis comme pérenne. Or, on va le voir, je suis un composé, en deux mots, je suis interdépendante, je fonctionne par l'interdépendance, et je suis impermanente. Ce n'est pas un scoop, hein. On sait qu'on va mourir. Mais quand il est dit de se vivre comme une entité autonome pose problème, c'est parce que ça m'éloigne de ma réalité. Ma réalité, quand je dis nous sommes un composé, c'est-à-dire que par rapport au corps, par exemple, il y a une évidence, notre corps est fait de diverses cellules, de divers éléments, de divers organes, de les os, etc. Et moi, je l'expérimente comme étant un. Pour que cet ensemble de cellules, etc., puisse fonctionner, il faut bien considérer qu'elles sont interdépendantes. Et si elles sont composées et interdépendantes, la réflexion par rapport à l'impermanence devient évidente. C'est-à-dire qu'il est évident que tout ce qui se rassemble à un moment donné est séparé à un autre moment. Dans notre expérience, on peut le voir, hein, on l'expérimente sans arrêt, si on l'observe. Tout ce qui a un début a une fin, tout ce qui naît meurt, etc. etc. Et donc, pour comprendre, pour aborder la réflexion par rapport au changement, bien sûr que la réflexion sur l'impermanence est importante. Il y a là quelque chose d'extrêmement essentiel dans notre réalité, que nous ne prenons pas en compte dans notre façon d'interagir avec nous-mêmes, d'agir avec nous-mêmes, d'interagir avec les autres ou avec les situations, avec les phénomènes en général. Prenons un exemple, parce que quand on dit tout est interdépendant, oui, tout. Donc, on va explorer. Par exemple, ce soir, nous sommes là réunis dans cette salle, et ma foi, ça peut paraître assez banal. On a eu l'info, on vient, ça se passe. C'est une conférence. Une conférence. Et hop, on refait une entité. Hein. C'est toujours, on considère toujours les choses comme étant une. Mais à bien y regarder, pour que cette conférence ait lieu, il a fallu que DACPO Bordeaux soit. Il a fallu que des personnes investies dans la gestion de DACPO Bordeaux aient l'idée de faire cette conférence. Il a fallu qu'ils me le demandent et que je dise oui, et que je vienne. Sinon, ça ne le faisait plus. Mais pour que vous ayez l'info, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fallu monopoliser en termes de communication, de gestion, en termes de personnes. Il y a des personnes qui sont là pour nous accueillir, pour organiser l'espace. Il a fallu cette salle. Bon, on ne va pas rentrer là, parce que là, pour le coup, on va... Et tous ceux qui sont intervenus pour que nous soyons dans cet espace. Mais pour que vous veniez jusqu'à cette salle, soit vous avez pris les transports en commun, ou la voiture, ou le vélo, ou vous êtes venu à pied en fonction des distances. Mais pour tout ça, il faut un réseau routier. Imaginez le nombre de personnes qui interviennent. Pour ceux qui sont venus en bus ou en tram, il a fallu TBC. Mais il faut aussi que la ville entretienne les routes. Et sauf erreur de ma part, on est tous habillés. Donc il a fallu des vêtements. Vous voyez, vous imaginez tout ce qu'il a fallu qui soit réuni pour qu'une conférence prenne place. Sans compter que chacun d'entre nous, normalement, est né de deux personnes, qui eux-mêmes sont nés de deux. Enfin, vous voyez, vous remontez les grands-parents, les aïeux, les ancêtres, et puis là, pouf. Mais pour que je puisse partager la compréhension que j'ai de l'enseignement du Bouddha à partir de ce thème-là, il a fallu le Bouddha. Et puis, il a fallu des êtres qui, eux-mêmes, étudient les enseignements du Bouddha, les mettent en pratique, les réalisent et nous le transmettent de façon pure et authentique depuis bientôt 2600 ans. Vous vous rendez compte? Ça paraît, comment dire, quand on réfléchit ainsi, il y a deux aspects, au moins deux, peut-être certainement trois. D'abord, un sentiment de gratitude envers tout ce qui permet de vivre ce que l'on vit. Là, maintenant. Ça permet aussi de voir que quand je me vis comme étant autonome, j'oublie tout cet aspect-là. J'oublie complètement ça. Mais par rapport à notre réflexion de ce soir, si m'entraînant à cette réflexion, abordant de façon plus détaillée ce que l'interdépendance et le composé signifient, il est fort probable que dans les situations de changement, je repère les différentes constituantes qui font que les choses ont changé, déjà, et qui me donnent aussi des portes d'entrée pour travailler avec ce qui se passe. Bien souvent, quand on est dans une situation où un changement intervient, on ne voit que le changement. Et on est bloqué par le refus de ce changement. Et donc, réfléchir à l'interdépendance, j'allais dire, donne de l'espace, mais ça peut être très très mal compris, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, l'ouverture, l'espace, on l'entend un petit peu à toutes les sauces, je me méfie un peu de ces mots. Je vais dire, ça donne des portes d'entrée pour réfléchir autrement, pour voir les choses différemment. Et bien sûr, on va continuer à explorer, mais l'idée est celle-ci. Parler de notre fonctionnement nous amène à considérer notre fonctionnement intime, mais aussi le fonctionnement dans la relation à l'autre et dans les situations que nous rencontrons. Maintenant, parlons de l'impermanence, parce que ça, c'est Alors, je ne sais pas s'il est rentré dans le dictionnaire. Il est rentré cette année. Il est rentré cette année. C'est un mot qui a eu du mal à rentrer dans le dictionnaire français. On parlait de quelque chose d'impermanent, mais le principe même de l'impermanence, c'est-à-dire que les choses changent sans cesse, ça, c'est quelque chose qui vient juste donc de rentrer dans notre dictionnaire français. De quoi parle-t-on ? Quand on parle de quelque chose d'impermanent, bien souvent, on se réfère à ce que l'on perd, à ce qui cesse. Mais l'impermanence n'a pas à voir qu'avec ce qui cesse. L'impermanence a à voir avec ce qui naît, avec ce qui se modifie tout en douceur, ou l'impression de brutalement les choses changent. En fait, pour qu'une chose change, elle ne peut changer que d'instant en instant. Ça vaut le coup d'y réfléchir à ça. Prenons l'exemple. Alors, nous avons. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose qui me paraît important, c'est sûrement le moment de le dire. C'est que notre mode de connaissance, c'est moi vers l'objet de connaissance. C'est-à-dire que je connais essentiellement à travers mes sens, mes facultés sensorielles. D'accord ? Et dans l'approche bouddhiste, on parle d'un sixième sens, qui est le mental, qui a pour objet les concepts, les idées, les représentations, etc. Hein ? Donc je connais à travers, il y a moi et l'objet à connaître. Donc, le fait que les choses changent d'instant en instant, n'étant pas perceptible par les sens, les facultés sensorielles, sauf par le mental, à y réfléchir, bien sûr, par inférence, en y réfléchissant, on a accès à cette réalité. Mais nous avons tellement l'habitude de nous fier à ce que nous percevons que nous avons du mal à intégrer cette réalité. On va, en fait, à bien y réfléchir, on a accès aux effets visibles de l'impermanence, mais pas par nos sens, pas par nos facultés sensorielles, au fait que les choses changent sans cesse. Je vais voir une fleur pousser, se faner, je vais voir un arbre avoir des feuilles au printemps et les voir tomber en automne, et je vais dire ça, c'est l'impermanence. Oui, oui. Mais pour que ça se passe, il a fallu que ça change d'instant en instant. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'approcher la réflexion sur l'impermanence. Excusez-moi, il y a une petite allergie, et donc les bulles me font du bien. Parenthèse fermée. Donc, je vais voir, par exemple, un enfant, un poupon, un petit poupon, vous savez que les joues toutes rondes et tout rose, bien sûr que ça va changer au fil du temps, au fil des années, jusqu'à devenir un visage peut-être creusé par les rides de la personne âgée que ce joli poupon est devenu. Mais entre le poupon et les rides affirmées, bien visibles, il s'en est passé des choses. C'est-à-dire que sans arrêt, les cellules se sont renouvelées. Sans arrêt, les expressions même, les sourires, ont creusé les petites rides d'expression qui, petit à petit, se sont creusées encore et encore. Le renouvellement cellulaire se faisant moins vite avec l'âge, ma foi, elles sont de plus en plus marquées. On passe des cheveux blonds ou bruns aux cheveux gris, aux cheveux blancs et aux cheveux quand il en reste. Et ça, on le constate. Mais de voir que pour qu'un cheveu devienne blanc, il y a forcément une transformation qui se fait. Et cette transformation n'étant pas accessible, on ne la considère pas. Ce qui n'est pas réellement un problème, ni pour les cheveux, ni pour les rides, quoique. Mais c'est également vrai pour les mutations qui se produisent dans notre vie. Pour les choses qui, à un moment donné, se transforme, on constate la transformation d'une situation alors que ça faisait un moment qu'elle était en cours. On va prendre quelques exemples. J'ai choisi un petit peu arbitrairement quelques exemples. D'abord, on va parler des changements qui nous sont imposés, ceux qui sont plus difficiles à intégrer. Prenons par exemple, on va l'appeler Jacques, hein, par exemple. Jacques travaille dans une boîte, je ne sais pas, mettons d'import-export. Il y a une nouvelle organisation qui prend place. Il est cadre, hein, donc il y a une nouvelle organisation qui prend place et on lui demande d'appliquer cette nouvelle méthodologie, lui et son équipe. Donc, en principe, ce n'est pas trop négociable. Donc, il va falloir accepter, s'adapter à ce changement. Alors, bien sûr, dans l'équipe, certains, il y a toujours ceux qui aiment la nouveauté, hein, certains foncent, OK pour le changement. Certains freinent des cas de fer, parlent même éventuellement de quitter la boîte, parce que ça, c'est juste pas possible, je ne suis pas capable de ce changement-là, je veux pas vivre ça. Et puis, d'autres disent, bon, voyons. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant tout un temps, bien sûr qu'il va falloir compter les uns sur les autres, s'épauler. Les plus à l'aise avec le changement vont épauler ceux qui le sont moins. Il va y avoir peut-être une formation supplémentaire, enfin, etc., etc. Les choses vont se passer. Et au bout du compte, par rapport, si on compte ça en quelques semaines, voire quelques mois, au bout du compte, il est possible que l'équipe soit plus soudée, plus soutenante qu'elle ne l'était auparavant, parce que cette expérience de transformation en commun peut amener éventuellement cette dynamique-là. Ou pas. C'est toujours le fameux « ou pas ». Ça marche ou pas. Après, il y a toujours... comment dire? Il ne s'agit pas de... Enfin, je n'ai pas l'intention, dans les exemples que je vais donner, de finir toujours en rose, hein. C'est pas comme ça que ça marche, parce que dans notre vie, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que ça peut éventuellement faire exploser une équipe, ce genre de choses. Tout dépend de comment l'équipe est managée, etc., etc. Donc, c'est un des lieux, les changements au boulot, c'est un des lieux de résistance assez massive, bien souvent, et de difficultés. Mais ces difficultés sont largement aggravées par la méthode de management, éventuellement, ou au contraire, largement améliorées. Donc ça, c'est un des exemples où le changement est imposé. Il en est un autre, où le changement est imposé de façon extrêmement... Elle peut être extrêmement violente et elle est toujours douloureuse. C'est le deuil, la perte d'un proche. Je vais prendre pareil un exemple un peu extrême, mais ça permet de voir comment ça fonctionne. On va l'appeler Marie. On va lui donner un nom. Marie est la femme du boulanger. Ils sont dans un petit village. Vous mettez ce petit village où vous voulez, l'endroit que vous aimez bien ou pas. Pendant ses tournées, le mari a un accident et il décède dans cet accident. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Marie? Marie ne peut pas garder la boulangerie. Elle n'a plus son mari Mitron. Donc, elle ne peut pas garder la boulangerie. Mais au-dessus de la boulangerie, il y avait l'appartement de la famille. Il y a deux enfants dans cette famille. Donc, il va falloir vendre la boulangerie. Mais vendre aussi l'appartement qui va avec. Donc, Marie va... Et il va falloir qu'elle travaille, qu'elle trouve un travail, qu'elle trouve un logement, qu'elle trouve un travail. Et en plus, qu'elle, maintenant, elle a la responsabilité seule d'élever ses enfants. Et puis, ses enfants, eux-mêmes, sont bouleversés par la mort de leur papa. Donc, ça fait, vous voyez, pour un décès... vraiment de nombreux bouleversements et de nombreux changements dans la vie. Donc, comment Marie va gérer ça? D'abord, bien évidemment, Il va falloir faire face, traverser toutes les émotions, toutes les difficultés qui sont associées à ça. Et puis, il va falloir concrètement faire face. Alors, on va imaginer que Marie est épaulée par ses proches. On va imaginer que, au fil du temps, on peut prendre cet exemple-là, au fil du temps, eh bien, Marie retrouve une certaine, on va dire, tranquillité, une certaine paix. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus jamais chagrinée ni jamais triste de se retrouver seule à élever ses enfants. Mais un deuil, quand il est bien soutenu, quand on est épaulé pour traverser les deuils, il y a une reconstruction possible, bien évidemment. Maintenant, si Marie était isolée dans l'histoire, on se rend bien compte que les choses seraient beaucoup plus difficiles, que les adaptations à ces différents changements seraient plus difficiles. Ça, c'est un appel à l'attention quand on est soi-même, soit dans une difficulté, c'est de se tourner vers les autres, ou quand on connaît quelqu'un en difficulté, c'est d'être présent autant que faire se peut. Maintenant, il y a aussi une autre situation qui est difficile, c'est la maladie grave, le handicap, par exemple. Un handicap suite, pareil, à un accident, quel que soit l'accident qui se passe. On perd l'usage de ses jambes, par exemple. Là, on entre dans une adaptation incontournable. Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter la réalité telle qu'elle se présente désormais. Mais l'idée, c'est peut-être moins d'accepter le handicap que d'accepter la vie que désormais je peux avoir avec ce handicap. Maintenant, là aussi, nécessité absolue d'être épaulée. Bon, il y a toute la phase de rééducation, d'intégration qui peut prendre place. Et il y a des témoignages, il y a des personnes qui témoignent en fait d'une vie peut-être plus riche, plus, où les priorités sont plus claires, où la vie prend un autre sens. Il y a un plus grand investissement dans la vie, dans la relation à l'autre, dans l'attention à l'autre. Ayant rencontré la proximité de la mort et la souffrance, ça donne un autre sens à la vie, par exemple. Mais il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas du tout ce handicap et qui perdent un peu le sens de la vie avec ça. Et entre ces deux extrêmes, si on peut dire ça comme ça, ces deux postures-là, il y a toutes les personnes aussi qui sont plus ou moins apaisés, qui sont plus ou moins révoltés, qui restent plus ou moins avec un sentiment d'injustice, etc. Et c'est des adaptations, on va dire, on fait avec. Ça n'a pas apporté quelque chose d'enrichissant, mais ça n'a pas non plus anéanti toute la vie. Donc vous voyez qu'on peut voir à travers ça qu'en fonction de j'allais dire quand même, et ça me paraît important, du soutien perçu et du soutien vécu, et surtout s'il est accepté, parce qu'il y a aussi des personnes qui résistent aussi au soutien qui leur est proposé, hein, tout va dépendre de chacun. Il est possible, même dans des situations où le changement est imposé, il est possible d'en faire quelque chose, concrètement. Bon, tout ça, ça paraît un petit peu facile à dire, mais je pense qu'il est important de se rappeler que c'est quand même difficile à vivre, hein, ces changements-là. Maintenant, qu'en est-il des changements que je choisis ? Parce que là, c'est moi qui fais la démarche. Par exemple, je choisis de déménager, de changer de ville, de changer de secteur, que sais-je. Et là, je me retrouve dans une maison, dans un appartement qui convient mieux, à mon style de vie, qui est plus confortable, qui a plein de qualités, par exemple. Mais j'ai laissé dans mon ancien chez moi tout un réseau relationnel. Il y avait les voisins, il y avait les commerçants, je connaissais tout le monde, ou je connaissais pas mal de monde. J'avais mes repères. Et ça peut devenir difficile à vivre. Tout à fait étonnamment, alors que c'est quelque chose que j'ai choisi, je n'ai pas considéré les autres changements qui allaient intervenir. Et du coup, il y a quelque chose qui quand même gratte un peu. Alors ça, forcément, c'est quand même un exemple un peu... Bon, c'est léger, ça, c'est pas grave. Et puis, il y a des situations que je choisis et qui vont générer quand même des difficultés. C'est par exemple la séparation de couple. Il y a déjà quelques mois, années, peut-être encore plus longtemps, décennies, que nous nous connaissons, par exemple. Et le temps passant, les expériences de vie, les choix, je ne sais pas, les choix professionnels, la réflexion qui prend place différemment, etc. Enfin bref, les chemins semblent petit à petit se séparer. Il n'y a plus grand-chose à partager et, admettons, je le vis assez mal. Et au fil du temps, je le vis très mal. Et au fil du temps, j'ai plus envie. Vous voyez, par exemple. Et donc, j'ai plus envie et donc je décide de mettre fin à cette histoire à deux. Alors, bien évidemment, je ne vais pas parler négociation avec le conjoint, etc. Mais vous voyez, il y a déjà tout ça. Hein. C'est déjà une période assez difficile. Mais bon, les choses se font. Après mûre réflexion, je choisis de quitter mon compagnon de vie ou ma compagne. Mais après, il faut faire face à tout le bouleversement que ça induit. Éventuellement, vendre le bien qui appartenait aux deux, l'appartement, la maison éventuellement, que sais-je. Les enfants, s'il y en a. Etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui change alors que la décision était mûrement réfléchie, je ne pouvais pas... Je savais ce qui allait changer, mais je ne pouvais pas anticiper la réaction de l'autre par rapport à ce changement. Et peut-être que tous ces changements annexes, secondaires, ces adaptations inévitables, ne vont pas très très bien se passer, parce qu'il y a beaucoup de résistance, par exemple, de l'autre côté, mais moi-même, je n'apprécie pas que les choses ne se passent pas comme je voulais. Donc je résiste aussi. Donc, vous voyez que là, alors que j'ai choisi la séparation, je fais quand même face à des difficultés d'adaptation au changement induit par cette décision. Ça se passe plus ou moins bien, parfois ça se passe pas mal du tout, et puis des fois c'est plus compliqué. Alors évidemment, par rapport à toutes ces situations, on pourrait se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? C'est bien joli, elle est en train de nous dire ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment je m'adapte au changement ? Comment je fais ? Alors, comme je vous disais au début de mon intervention, je ne vais pas vous proposer, nous n'allons pas vous proposer une réponse immédiate à comment faire dans la situation. C'est un peu frustrant peut-être, hein, mais ce n'est pas ça qui va vous être proposé. Mais vous n'êtes pas pour autant sans ressources, parce que dans notre culture, il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour répondre à tout ça de façon concrète et sur le moment. Là, l'idée, la proposition est différente. La proposition est différente en ce sens que ce que le Bouddha nous propose, c'est de revisiter notre fonctionnement, d'en vérifier la pertinence, Est-ce que ce déni, par exemple, cette façon de ne pas considérer ni le composé, ni l'interdépendance, ni l'impermanence, est-ce que ça, c'est pertinent ? Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose à regarder de ce côté-là, plutôt que de regarder, d'essayer de colmater les effets visibles et désagréables du fait de ne pas considérer ça ? Parce que c'est ça dont il s'agit. Ce qui est désagréable, c'est d'être dérangé, déstabilisé, démuni par un changement que je n'ai jamais considéré comme étant possible. En fait, ça va être un peu rêche hein, ce que je vais vous dire, mais allons-y. Je nous fais confiance. On essaye, mais de façon extrêmement répétitive, régulière, de façon quelque peu volontaire, de construire et de maintenir un bonheur définitif en s'appuyant sur des êtres, des relations, des situations qui elles-mêmes sont impermanentes. Comment voulez-vous que ça marche ? Et pourtant, nous passons notre temps sans cesse à essayer de maintenir ce qui nous convient, à essayer de retenir ce qui nous échappe, à essayer d'écarter ce qui nous dérange. Tout le temps. C'est pas de temps en temps je rejette, c'est pas de temps en temps je m'approprie, c'est qu'on est tout le temps à la recherche d'un équilibre hypothétique basé sur une vision partielle et quelque peu erronée, voire complètement erronée. Mais bon, on va pas se désespérer pour autant. Alors l'idée, quand on dit ça, c'est mais comment je fais alors ? Puisque je n'ai accès qu'à mes représentations, que tout bouge tout le temps et que j'ai le contrôle sur rien. Comment je fais pour fonctionner de façon créative, de façon généreuse et bienveillante envers les autres ? Comment je fais puisque je n'ai accès qu'à une partie infime de ce qui se passe réellement ? Alors c'est là où c'est une forme de défi quand même. Hein. C'est de s'appuyer sur les représentations qu'on a, sur les représentations que j'ai. Hein. Je m'appuie sur ces représentations que j'ai, tout en sachant que ça n'est qu'une représentation et qu'il y a bien plus à découvrir. Il ne s'agit pas de rejeter la représentation que j'ai, sinon, qu'est-ce qui reste ? Mais si je peux m'appuyer sur ma représentation en considérant qu'elle n'est qu'une partie de ce qui est, à ce moment-là, je développe, je ne sais pas si le mot est juste, une forme de curiosité, d'intérêt, d'envie de découvrir ce qui n'est pas encore vu. C'est une posture à trouver, hein, parce que je pense, enfin du moins, mon expérience me montre que j'ai pas pu improviser ça. C'est-à-dire que ça passe par la réflexion sur notre fonctionnement, mon fonctionnement, mais aussi sur ces fameux trois décalages. Apprivoiser le composé plutôt que de toujours figer les choses comme étant une unité, réfléchir à l'interdépendance plutôt que de me vivre comme étant autonome et séparé du reste, et réfléchir à l'impermanence qui est quand même ma réalité. J'ai l'impression que depuis que j'ai conscience d'avoir un corps, c'est toujours le même corps. Même s'il a changé, j'ai toujours l'impression que c'est le même corps. Or, le corps, il est en sans cesse renouvellement aussi. J'ai l'impression que c'est la même peau. Bon, elle est un peu plus ridée. Ouais, un petit peu tachée maintenant qu'avant. Mais c'est la même peau que quand j'étais enfant. Mais pas du tout. C'est pas du tout la même peau. Elle s'est complètement renouvelée. Et donc, du coup, réfléchissant à ça, je peux petit à petit aborder la réflexion sur l'impermanence, non pas en termes de ce qui se termine, mais en termes de ce qui vit. En fait, l'impermanence, c'est l'expression de la vie même. C'est l'expression du vivant. Et du coup, si j'associe l'interdépendance avec cette notion du vivant, ça me donne des clés pour agir sur certains aspects des situations afin d'en faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus créatif. Ou pas. Parce que quand même, on va pas se le cacher, hein. À un moment ou à un autre, quand on réfléchit sur l'impermanence, on est bien obligé de réfléchir à notre finitude. Et ça, c'est pas toujours confortable. Il faut le reconnaître. Mais quand même, je nous invite, c'est pour ça que la proposition dans l'enseignement du Bouddha est d'aborder l'impermanence à partir des choses qui, au fait que ça ne peut changer que d'instant en instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où j'ai le pouvoir d'agir, c'est dans l'instant. L'instant précédent, on n'en parle plus. L'instant suivant, on ne sait pas de quoi il est fait. Donc, prendre conscience de la préciosité de l'instant, c'est-à-dire que cet instant où je rencontre un changement, par exemple, que je refuse, c'est également l'instant où je peux accueillir le changement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a là... Quand on parle d'adaptation, d'adaptation au changement, bien sûr que c'est quelque chose de progressif. Mais il y a un moment donné, il y a l'instant de la décision de s'adapter à ce changement, d'accepter ce changement, de faire avec le changement. Et cet instant de décision, c'est là où je trouve... l'enseignement du Bouddha nous met face à notre responsabilité pleine et entière, et je trouve ça extrêmement rassurant, c'est-à-dire que les choses ne dépendent pas de quelque chose d'extérieur. Je ne dépends pas de choses extérieures. Je dépends de mon fonctionnement. C'est ça qui est ma grande dépendance. Mais mon fonctionnement est soutenu par... pas soutenu, c'est pas le bon mot. Il est également doté d'un discernement qui me permet de travailler avec ce fonctionnement. C'est ça qui est génial. À la fois, on a le bug, et à la fois, on a l'outil pour travailler avec le bug. C'est génial. Parce que quand même, le fonctionnement, ça n'est jamais... qu'une partie, je ne sais pas si c'est le mot juste, c'est l'expression, j'allais dire, distordue du fonctionnement de l'esprit. L'esprit, lui, c'est ça qui est extraordinaire. Notre esprit, l'esprit de chacun d'entre nous, l'esprit de tous les êtres, il est doté de qualités immenses, il est à la fois... connaissant, bien évidemment, mais il est aussi l'expression du discernement, de la compassion, de l'amour, l'amour, pas l'amour-désir, hein, quelque chose de plus vaste que ça. Et toutes ces qualités sont limitées, entravées par ce fonctionnement où je dis « Oh, moi j'aime, moi j'aime pas, moi je vois pas. » Et c'est ça qui limite, j'allais dire, l'accès à ces qualités inhérentes de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas du tout actives. Elles sont actives, c'est-à-dire que ce discernement, cette capacité à connaître, par exemple, elle est présente dans notre fonctionnement aussi. Ça veut dire que si je regarde mon fonctionnement pour ce qu'il est, si je l'accepte pour ce qu'il est, c'est-à-dire si je pose un regard bienveillant sur mes fonctionnements, j'ai toutes les chances en même temps de développer, enfin de discerner ce qui dysfonctionne afin de le transformer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ça va à peu près ? On pourra y revenir si vous avez des questions. Mais c'est important parce que, enfin je vais le dire un peu de façon, tout est dans le kit. Dans notre kit esprit, tout est là. On a à la fois les défauts, mais on a tout pour le corriger. Et on peut, tout à fait, c'est pas utopique hein, du tout. Des êtres nous ont prouvé que c'était complètement possible. On peut sortir de ce fonctionnement-là. On peut, alors ça s'appelle un fruit à long terme, hein, d'accord. Mais en travaillant, en regardant, parce que c'est quand je dis travailler, c'est peut-être pas juste, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un travail acharné. C'est on mesure peu parfois à quel point le simple fait de regarder le fonctionnement est en soi thérapeutique. C'est-à-dire si je regarde mon fonctionnement pour ce qu'il est, il y a un moment ou un autre, je vais l'invalider. Je ne vais pas être d'accord sur le fait de me mettre systématiquement en colère quand quelque chose me dérange. Je ne vais pas être d'accord avec le fait de vouloir m'approprier tout ce qui me plaît. Vous voyez ? Et il y a un moment donné... à force de regarder et d'invalider ça, il y a quelque chose d'autre qui prend place dans l'esprit. Mais bien sûr, quand je dis regarder le fonctionnement, on se dit, oui, mais comment on fait là ? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. Hein. Il y a la porte d'entrée, j'allais dire, royale. Bien sûr, Alex nous en a parlé, c'est la méditation. Alors maintenant, qu'est-ce que la méditation ? Parce que on parle beaucoup de méditation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont enseignées, qui sont pratiquées, qui sont fort aidantes. Mais la méditation a un objectif, elle est au service de quelque chose. La méditation n'est pas une fin en soi. La méditation est au service d'eux. Et en ce qui concerne la méditation bouddhiste, la méditation est au service de la clarification de l'esprit. Elle est au service du discernement. Et donc, en tibétain, méditation se dit gom. Pas la gomme à effacer les pensées, hein, ni les émotions, c'est pas ça. Mais gom, G-O-M, c'est un son, hein, c'est de la phonétique. Et gom, ça veut dire, on pourrait le traduire plus justement par familiarisation, entraînement, c'est plus juste comme traduction. Mais bon, si on dit je vais faire de l'entraînement, ça ne veut pas dire pareil. Et c'est important de se rappeler du sens. Parce que c'est se familiariser à quoi ? C'est se familiariser au mouvement dans l'esprit, ce que l'on rencontre dans l'esprit. Et s'entraîner à quoi ? C'est s'entraîner à ne pas les suivre. Parce que nous avons l'habitude, une habitude très fortement ancrée, de suivre toutes les pensées qui traversent notre esprit. Et là, l'idée, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méditation, c'est juste pour en donner le goût, une idée, juste comme ça. En fait, on va s'appuyer sur un support. Et là, le support qui est choisi, c'est la respiration, le souffle. sans changer le rythme respiratoire, sans se focaliser, se concentrer sur la respiration, mais juste en étant conscient que l'on respire. Juste, je respire et je sais que je respire. Et je reste posée sur la respiration. Et bien évidemment, très rapidement, l'esprit s'évade, comme d'habitude, et les pensées s'élèvent. Pas de problème, je reviens sur la respiration. Pas de problème, pas de problème. C'est-à-dire que, en fait, méditer, c'est sans cesse revenir au support. Sans cesse, on revient. Parce que, alors, on est assis, on est censé être posé sur la respiration. Une idée nous traverse. Tiens, il faudrait que j'aille chercher du pain en sortant de là. À cette heure-ci, je ne sais pas si la boulangerie s'est ouverte. Et, parce que c'est rarement des pensées d'une grande compassion. C'est vraiment du très ordinaire. Pour ceux qui se sont essayés, c'est vraiment très, très ordinaire. Et on est assis et on est déjà à l'autre bout de la ville en train d'acheter le pain. Vous voyez, et ce n'est pas un problème. On revient. Juste, on se repose. Puis tout à coup, j'ai mal au genou. J'ai envie de bouger. Enfin, vous voyez, tout ça s'élève. Et c'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et l'idée, ça n'est pas de chasser les pensées. C'est de s'entraîner à revenir. Et petit à petit, on s'aperçoit de quoi. On expérimente quoi? On expérimente que quand on ne suit plus la pensée, elle n'est plus. Étrange. Moi qui crois si fort à mes pensées, quand je ne les suis plus, elles ne sont plus. Et ce qui permet petit à petit, en situation, d'être conscient de l'émotion, par exemple, qui s'élève, de l'impatience qui s'élève, et d'arriver à ne pas le suivre. Ça c'est déjà un fruit. Hein. Entre-temps, vous voyez, l'idée, c'est celle-ci. Et c'est pour ça, je fais juste ce petit aparté par rapport à la méditation, parce que cette approche bouddhiste ne peut pas se concevoir sans cet entraînement à poser un regard sur nos fonctionnements. Sinon, il est très difficile de regarder notre fonctionnement pour ce qu'il est, sans le juger, sans l'invalider, juste être conscient que, effectivement, par exemple, hein, si je réfléchis à l'interdépendance, effectivement, je ne la considère pas dans mon quotidien. Quand on dit « je fais ce que je veux », oui, si c'est possible, et si c'est le fruit d'une réunion de causes et de circonstances qui me permettent de mettre en œuvre ce que je souhaite faire. Sinon, ça ne marche pas. Si quelque chose n'est pas présent, ça ne fonctionne pas. Un exemple qui est donné par Dzongsa Rinpoche dans son livre « N'est pas bouddhiste qui veut », si ça vous intéresse de vous pencher sur cet ouvrage, cet enseignement plutôt. Il dit « vous prenez du feu, prenez une casserole, prenez de l'eau, prenez un œuf, vous allumez le feu, mettez la casserole sur le feu, mettez l'eau dans la casserole, vous mettez l'œuf dedans, vous attendez 10 minutes et vous pourrez faire toutes les prières que vous voulez. Au bout de 10 minutes, l'œuf est cuit. » Ça paraît évident comme ça. Et vous avez vu déjà, il a fallu réunir plusieurs éléments. Je ne parle même pas de la poule. Hein. On va laisser la poule. Mais ceci étant, si j'oublie d'allumer le feu et que j'attends 10 minutes, il ne se passera rien. Si je mets l'eau sur le feu, il ne se passera rien non plus. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient présentes, les causes et circonstances soient présentes, et dans un ordre précis, entre guillemets, que tout soit là, et que le facteur temps agisse aussi. Ça fait partie des éléments dans cet exemple-là. Ça veut dire que je fais ce que je veux, oui, à condition que toutes les causes et toutes les circonstances soient réunies pour ce faire. Et si certaines causes et circonstances ne sont pas réunies, alors en fonction de l'enjeu que ça a pour moi, de la puissance que ça a pour moi, la frustration, la résistance, tout ça va émerger. De fait. Donc ça, c'est cette réflexion est vraiment essentielle du point de vue de cette approche, parce qu'elle permet, comment dire ça, dans une situation contrariante, quelque chose qui ne me convient pas, un changement qui ne me convient pas, je vais avoir l'impression que la situation est tout un bloc. C'est une chose qui ne va pas. Si je commence à regarder les différents éléments qui ont amené et qui font que ce changement perdure, je vais avoir concrètement des portes d'entrée pour changer les choses. Mais ça demande un minimum de clarté, de discernement. Et surtout, ça demande une chose, deux choses essentielles, c'est de se rappeler de ça au bon moment. Parce que quand on est face à quelque chose qui nous contrarie, la contrariété elle-même et le refus de ce qui se passe fait qu'on va considérer, on va être dans le rejet et on ne va pas immédiatement développer le discernement par rapport à ça. On va juste être en contre. Et pour approcher la situation, essayer d'en avoir une vision d'ensemble un peu plus vaste, il est indispensable de moins oser s'approcher et de ne pas être en contre. Ça ne s'improvise pas, hein, ça se cultive. C'est pour ça que il nous semblait important de préciser d'emblée que la proposition qui est faite ce soir, c'est un travail de fond. C'est une approche qui va nous permettre, in fine, d'établir un autre rapport au changement, mais il n'est pas, comment dire, heureusement, il n'est pas nécessaire d'avoir abouti l'ensemble du chemin, de la réflexion, etc., que pour en voir des fruits concrets au quotidien. C'est-à-dire que plus je suis consciente de ma réalité, plus je vais agir, interagir de façon autre, sur base de ce que j'ai compris. Et il est important de considérer que chaque pas qui est fait est un pas qui vient éclairer le chemin. C'est pas, on est dans l'obscurité et à un moment donné on sera dans la lumière, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un entraînement qui fait que petit à petit, on approche les choses différemment. Et que pour que ce chemin d'approche de notre fonctionnement puisse se vivre de façon fertile, aisée, plus détendue, j'allais dire, il est important d'établir un rapport plus juste, un autre rapport, on va dire plutôt, un autre rapport à nos erreurs. Parce qu'on va voir, forcément, si on regarde, on va voir. Et on va voir qu'on s'est trompé, on va voir qu'on s'est planté, on va voir qu'on a mal estimé la situation, on va voir qu'il y a certains paramètres qu'on n'avait pas du tout considérés, etc., etc. Et c'est là où la bienveillance envers soi-même est indispensable. Et de vraiment aborder le chemin comme un chemin d'apprentissage, un chemin d'entraînement, et de se considérer, on pourrait dire, comme des apprenants, comme des personnes en chemin, des choses, on ne sait pas tout, donc c'est important de considérer ça. Et que l'erreur, justement, le comportement erroné qu'on a eu, ou la compréhension partielle qu'on a eue et qu'on a repérée après coup, ça, c'est ça qui va nous donner plus de discernement, parce que j'apprends quelque chose de cette erreur-là. Ou dit autrement, ça devient, c'est régulièrement répété, mais je le répète encore une fois, c'est parce que je me plante que je pousse. Et ça, si je me rappelle de ça, au moment où je me rends compte que je me plante, il y a quelque chose d'autre qui prend place. Parce que bien souvent, vous voyez là, ce sourire que nous avons là quand on parle de ça, gardons-le quand on regarde nos défauts, nos erreurs, etc., etc. Gardons ce sourire-là envers nous-mêmes, parce qu'on a quand même tendance à se prendre un peu au sérieux, vous voyez. Quand on est au cœur de la difficulté, on se prend un petit peu trop au sérieux. Puis de temps en temps, mettre un petit peu de distance, enfin d'humour par rapport à ce que nous rencontrons, ça peut pas faire de mal. Vous voyez. Il est 10h20. Je vous propose de passer aux questions. Ce sera peut-être le plus simple. C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Hein.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comme il faut une première question pour qu'il y en ait 20 derrière. Donc il me semble que la seule approche qui fonctionne, la recette de cuisine, c'est la méditation.
La méditation est indispensable, mais c'est pas la seule méthode, parce que sinon, elle va s'appuyer sur quoi ? La méditation ne peut s'appuyer que sur une compréhension du fonctionnement. Et donc, de réfléchir d'une part à notre fonctionnement, et surtout à ces fameux trois décalages que sont le composé, l'interdépendance et l'impermanence, parce que sinon, il s'agit d'établir une vue, une compréhension de notre fonctionnement au-delà de l'immédiate appréhension qu'on en a, mais d'aller voir un petit peu plus loin. Et ça, ce regard-là se cultive en méditation. Ce que j'ai expliqué, enfin, ce que j'ai très légèrement évoqué sur la méthode méditation, c'est que la base pour mettre en œuvre la méditation. Mais la méditation s'inscrit dans un chemin et s'inscrit sur base d'une compréhension du sens de l'enseignement. Donc, ce n'est pas la seule recette, il y en a trois. Hein. Alors, en tibétain, te, sam, gom. C'est toujours les mêmes te, c'est l'écoute, c'est déjà d'entendre l'enseignement. Alors, évidemment, ce que je vous dis là ne peut pas suffire. C'est juste une introduction très, très légère, hein, et en plus ciblée sur une problématique particulière. Mais d'entendre l'enseignement, ça c'est eux. Sam, c'est d'y réfléchir. Le Bouddha lui-même a dit « Ne croyez pas ce que je dis parce que c'est moi qui le dis. Expérimentez-le. » Et le gomme, c'est la méditation, c'est trois entraînements. Et cette deuxième étape, qui est la réflexion, est essentielle. Parce que quand on a une information, c'est juste... on ne peut pas mettre en œuvre une information. On peut mettre en œuvre ce que nous avons intégré. Et pour l'intégrer, il faut y réfléchir, voir si vous êtes d'accord. C'est important. Et de voir qu'est-ce que ça vient éclairer en moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, est-ce que je suis... qu'est-ce que j'en pense, mais qu'est-ce que j'en comprends ? Parce que je ne peux mettre en œuvre que ce que je comprends, que j'intègre, que ce à quoi j'adhère. Ça ne peut pas être juste une idée. Et donc, cette étape d'intégration est vraiment importante. Mais les trois, on ne fait pas l'un après l'autre, les trois se font en alternance et toujours pareil, en interdépendance, de fait. Chacun vient nourrir l'autre. Chaque entraînement vient nourrir l'autre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai que 20 ans, et face à un changement, qu'est-ce que je peux faire face à l'angoisse que je peux ressentir face à un changement brutal, qu'il soit au niveau scolaire ou amical ou sentimental ?
Alors, les ressources qui ont été partagées ce soir ne vont pas répondre immédiatement à cette question. On est bien d'accord, là on est dans un travail de fond qui va nous permettre petit à petit de vivre les choses différemment. Face à une situation aiguë rencontrée maintenant, déjà l'essentiel c'est de ne pas être seul, de vraiment pouvoir s'appuyer sur des personnes. Alors, en fonction du degré de l'angoisse, du degré de la peur, ça peut être des professionnels, type psy, mettez ce que vous voulez après, hein, co-thérapeute, psychologue, psychiatre, que sais-je. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de ressources. On a de la chance dans notre pays, enfin dans notre pays, en Occident, il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour faire avec des difficultés quand elles sont aiguës. Ça peut être aussi nos proches. Mais ça peut être aussi des amis. À 20 ans, on a souvent pas mal de ressources en termes d'amitié, de cercle amical. Et parfois, on retrouve auprès de nos pères vraiment des ressources importantes. Et ce travail de fond qui est proposé n'invalide pas, bien au contraire, le fait de répondre à une situation d'urgence de façon adaptée. D'urgence ou douloureuse ou difficile à intégrer. Ça répond ?
Oui.
Vous disiez tout à l'heure que le fait de dire ce que je veux, ce n'était pas le bon chemin, mais ce que je peux.
Je fais ce que je veux, c'était ça ?
Ce que je peux,
bien évidemment. Mais entre ce que je veux et ce que je peux, il y a le discernement qui est intervenu. Ça, c'est déjà un pas important. Et je pense que maintenant, le discernement par rapport à ce que je peut me limiter ou au contraire peut m'ouvrir à plein de possibilités. Parce que, je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun d'entre nous, mais bien souvent, je ne sais pas pour parler de moi, mais je me suis trouvée, et je suppose que c'est vrai pour tout le monde, face à des situations que je n'avais pas anticipées, que je n'avais pas envisagées, que je n'avais jamais imaginées, et en fait, je peux les vivre. Alors que si on m'avait posé la question, j'aurais dit non, ça, je ne peux pas le faire. Donc, ce que je peut être limitant ou au contraire peut m'ouvrir à beaucoup de possibles. Donc, c'est important de voir comment je situe, moi, ce que je peux.
Et puis, c'est dans l'instant qu'on...
Aussi ?
Qu'on le connaît. Ouais.
Il y a ce qui est dans l'instant et il y a ce qui s'anticipe. Ou ce qui se réfléchit après coup, c'est aussi très important de regarder après coup. Je voulais ça, je croyais pouvoir y arriver, mais en fait, je ne pouvais pas. Et là, de cette relecture, on apprend aussi des choses et on voit ce qui est à cultiver, ce qui est à renforcer, ce qui est à nourrir, etc. Ou ce à quoi il faut renoncer parce que c'est effectivement pas dans notre possible.
Enfin, c'est la connaissance de soi.
On peut le dire comme ça.
Bonsoir. Je suis content de vous voir ici, présente. Et je vous ai écouté avec attention. Vous parlez de l'impermanence. Je pense, personnellement, que pour pouvoir gérer ces activités, ces ressentis, ces aléas, vous le disiez tout à l'heure, l'impermanence, il faut s'y préparer. Il faut le comprendre et savoir l'accepter. C'est, je crois, le point névralgique, c'est de savoir et de pouvoir accepter cette impermanence qui peut arriver à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme. Et ça, c'est une intervention mentale que l'on peut se faire. Cette acceptation, c'est difficile à organiser. Et après, il y a ces postures, la question des postures. Que peut-on faire ? Comment peut-on vivre ? Comment peut-on se conditionner pour pouvoir analyser, parce qu'il faut analyser cette impermanence, ce qui nous tombe dessus ? Comment on va faire cette analyse ? Est-ce qu'on peut le faire tout seul ? Est-ce qu'on peut le faire avec d'autres ? Comment on s'y prend ? Et c'est là l'importance aussi du devenir. C'est-à-dire l'impermanence, on l'accepte, mais elle nous tombe d'une manière qu'on ne s'y attendait pas, vous le disiez tout à l'heure, tout de suite, là. Mais il faut quand même trouver l'instant, l'espace-temps, pour que nos neurones se mettent en marche de manière à travailler dans le sens d'une réparation de cette impermanence après l'acceptation. Que puis-je faire pour réparer ce qui m'arrive ? Que puis-je faire pour organiser et orienter cela ? Donc, il y a cette question de posture. C'est là que je voudrais que vous puissiez développer un petit peu la posture de tout ça. Merci.
Alors, quand vous parlez d'impermanence, est-ce que vous parlez de finitude ?
la finitude vient...
Le fait de la mort.
Là, on peut accepter cette chose-là aussi, bien sûr. L'impermanence, c'est la mort permanente des choses, des cellules, si vous le disiez aussi tout à l'heure.
Mais c'est important de considérer que c'est la mort et c'est la naissance à chaque instant.
La naissance d'une autre cellule, d'une autre...
Oui, mais c'est important parce que je pense que nous avons cette tendance à considérer l'impermanence que du point de vue de ce qui se termine. Mais l'impermanence, c'est aussi du point de vue de tout ce qui commence.
C'est le cheminement aussi.
Voilà. Donc, effectivement, vous avez dit une parole importante, me semble-t-il, entre autres, hein, il n'y en a pas qu'une, mais vous avez dit un aspect important, c'est le fait qu'on ne fait pas le chemin seul. Ça, c'est vraiment un aspect essentiel dans la voie bouddhiste. Nous sommes... épaulé, accompagné par des êtres qui ont, j'allais dire, une bonne longueur d'avance sur nous et qui ont l'expérience du chemin et qui nous éclairent, qui nous aident. Et il y a aussi ce qu'on appelle, quand on parle de s'appuyer sur les amis spirituels, c'est vraiment une notion importante. C'est un des trois lieux de refuge. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a trois lieux de refuge. C'est le but, excusez-moi, les trois lieux de refuge, c'est le but, ce qu'on appelle l'éveil ou le Bouddha, c'est pareil. Il y a le chemin, il y a la communauté des pratiquants, mais aussi la communauté des êtres qui ont réalisé le chemin. Et effectivement, c'est indispensable que d'être épaulé dans son chemin. Parce que sinon, le risque, c'est de s'engager sur un chemin de travers sans s'en rendre compte et de s'enferrer dans l'erreur. Et donc, un être qui a déjà l'expérience du chemin va pouvoir nous aider à revenir sur la bonne voie. C'est vraiment important.
Bonsoir. En fait, il y a des choses dans la vie qui m'énervent profondément, mais sur lesquelles je ne peux pas agir. Comment je pourrais faire?
Alors, merci pour cette question. Merci, mais vraiment, parce que c'est vraiment... effectivement, il y a des choses qui m'énervent et que je ne peux pas, sur lesquelles je ne peux pas agir. Ça, rien que l'idée d'y penser, déjà, c'est énervant. Donc... Ce que l'on pourrait quand même constater, c'est qu'il est vain de s'énerver sur quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est facile à dire. Et pourtant, c'est la réalité. Je vais vous donner un exemple. Il suffit... Alors, c'est un petit, et même, on pourrait dire, un petit entraînement. Je vous propose ça. Vous êtes dans votre voiture et il arrive parfois qu'on en soit pressé. Et à chaque fois que vous vous approchez d'un feu, il devient rouge. Vous voyez, c'est en principe, quand on est pressé, que les feux deviennent rouges. D'accord ? Alors, c'est quoi ? 2-3 minutes, un feu. Je ne me rends pas bien compte, mais ce n'est pas grand-chose en termes de temps. On est tout seul dans sa voiture. Vous voyez ? On est tout seul dans sa voiture. On ne peut pas changer la couleur du feu. D'accord ? Et on s'énerve dans sa voiture. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça mais vraiment incroyable. Et si je commence à regarder ce fonctionnement en voyant le manque de pertinence, en voyant à quel point c'est stérile et qu'en plus, le problème, c'est, bon, je m'énerve tout seul dans ma voiture, c'est stupide, bon, admettons. Mais n'empêche que le problème... c'est que j'inscris de plus en plus profondément dans mon fonctionnement, dans mon esprit, le fait que réagir par l'impatience à tout ce qui me dérange, c'est la seule réponse possible. Or, ce n'est pas le cas. Alors, l'exercice dans la voiture, c'est génial, parce qu'on peut regarder, on peut en sourire, et si on sourit, on est déjà moins énervé. Maintenant, vous avez le niveau 2, c'est que la voiture qui est devant vous, au moment où c'est à son tour de passer, elle cale. Vous voyez ? Elle cale. Mais elle réussit à redémarrer et au moment où vous allez la suivre, le feu redevient rouge. Ça, c'est le niveau 2. Hein. pareil, regardez ce qui se passe. La personne, elle n'a pas fait exprès de caler, elle n'a pas fait pour vous embêter. Le feu ne fait pas exprès, il n'y a rien contre nous. Et pourtant, on s'énerve. Mais c'est juste de voir, comment dire, pas de voir, si voir, mais d'expérimenter le fait que cette réponse-là, qui est basée sur le rejet de ce que je ne peux pas changer, est vraiment contre-productive. Parce qu'à chaque fois que je réalimente la machine, à chaque fois, les choses m'énervent de plus en plus. Voilà la réponse que je peux faire.
Oui, non, mais là, on rigole, mais il y a des choses qui ne font pas rigoler.
Mais je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire l'exercice dans la voiture. Parce que si j'arrive à sourire de moi face à quelque chose qui, effectivement, n'a pas d'impact sur les autres, n'a pas d'impact concret sur ma vie. Juste, je vais être un peu en retard. Bon, OK, de toute façon, je ne peux pas le changer, ça. OK ? Bon, si je peux le faire dans ces cas-là, petit à petit, je vais m'apercevoir que quelque chose que je ne peux pas changer n'est pas nécessairement énervante. Elle peut peut-être être contournée, elle peut peut-être être considérée différemment, elle peut peut-être être regardée autrement et par un autre angle. Tant que je suis frontalement confrontée à ce qui me dérange, j'ai aucun espace pour faire autrement. Et l'idée, quand même, c'est de se sortir de ces impasses qui nous font souffrir. Donc, juste de cultiver les moyens d'avoir un peu plus d'espace en situation. Et dans les choses qui sont vraiment, j'allais dire, contrariantes, énervantes, etc., et auxquelles je ne peux rien, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Peut-être regarder les choses différemment, peut-être agir différemment, peut-être c'est à moi d'agir, peut-être c'est pas à moi d'agir, mais peut-être je peux soutenir ceux qui agissent, etc., etc. Et là, ce discernement-là ne peut s'élever que si je lâche l'énervement premier, si je lâche la rencontre frontale avec le refus de changer. C'est pas facile, on est d'accord, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible.
Je retourne. Je pense qu'on peut remercier Anina Trunet pour la conférence de ce soir.